Tout à l'heure, frères et sœurs, je suis décidé à suivre Jésus. Et je pense que ce chant exprimait le désir de la plupart, peut-être même de tous, au milieu de nous cet après-midi. Seulement, il faut bien nous dire que lorsque on veut suivre Jésus-Christ, dès qu'on décide sérieusement de suivre Jésus-Christ, on se fait un ennemi, c'est celui qui est l'adversaire de Dieu. Et cet ennemi va essayer de nous arrêter, de nous empêcher de réaliser ce que nous avons décidé. Et il va essayer tous les moyens et essayer de s'infiltrer dans notre vie par n'importe quelle porte. Et une de ces portes, c'est justement les sentiments. Et c'est pourquoi je pense que c'est important que nous abordions un petit peu cet après-midi avec notre frère Atta Kortian ce sujet, le choix du conjoint, puisque c'est bien sûr un problème ou une question qui préoccupe tous les cœurs des jeunes, et il est bon, des fois même très tôt, de savoir un petit peu certaines vérités. Et je suis sûr que ce que notre frère va nous dire cet après-midi sera pour chacun de nous une aide, parce que nous avons un Dieu qui veut le meilleur pour nous, qui veut notre bien. Mais il peut nous le donner dans la mesure où nous écoutons ce qu'il va nous dire. Alors que nos oreilles soient attentives cet après-midi vraiment au Seigneur. Je laisse tout de suite alors la parole au frère Samuel. Peut-être qu'à la fin du message, nous aurons l'occasion de faire un partage. Vous direz vous-même vos sentiments, vos pensées. Il y a bien sûr beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Le mariage est comme la construction d'une maison. À une maison, il faut des fondements. Et sans fondement, une maison ne tient pas, vous le savez comme moi. Et sans fondement, un ménage, un mariage ne peut pas tenir. Le triste spectacle que nous avons aujourd'hui dans le monde, c'est que beaucoup se marient, mais sans fondement. Bien sûr, on pense toujours que nous, on ne fera pas comme les autres. Alors, c'est déjà une question d'orgueil. Cette simple parole révèle l'orgueil de notre cœur. Parce qu'on pense que nous, on n'est pas comme les autres. On ne fera pas comme les autres. Ce qui arrive aux autres ne m'arrivera pas à moi. Très souvent, cette simple réponse révèle l'orgueil qu'il y a dans le cœur. Parce qu'on n'est pas meilleur qu'un autre. Et si nous ne prenons pas, nous n'adoptons pas des principes qui sont bibliques, réels et authentiques, nous ferons comme les autres. Vous ferez exactement comme les autres, même si vous ne le voulez pas. Des centaines et des milliers se tombent dans le même piège. Donc c'est avec beaucoup d'humilité qu'il faut aborder ce sujet et surtout ne pas penser qu'on est meilleur qu'un autre, que ce qui est arrivé aux autres ne nous arrivera pas. Ça ne nous arrivera pas si nous faisons ce que Dieu nous demande. Mais si nous ignorons les principes élémentaires de la parole de Dieu, alors votre maison, votre foyer sera bâti sur le sable et la maison s'écroulera tôt ou tard. C'est pourquoi j'aimerais qu'on lise comme passage de base la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Je crois que c'est un bon passage sur comment bâtir un foyer, comment choisir un conjoint, c'est exactement la même chose. Luc 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre ou sur le sable. Sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Pourquoi la ruine a été grande ? Parce qu'il n'y avait pas de fondement, tout simplement. Et pour qu'il y ait des fondements, il est dit ici, au verset 48, bâtissant, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant, et a posé le fondement sur le roc. Donc, dans le choix d'un conjoint, il y a toujours une préparation. En général, quand les rencontres sont coup de foudre, après il y a toujours le coup de tonnerre. Ça peut arriver qu'il y ait la rencontre coup de foudre. Mais alors, après les coups de tonnerre, il y en a aussi beaucoup. Je veux dire par là que dans le véritable choix d'un conjoint, il y a une préparation. Il a creusé bien avant. Il y a donc une préparation. Quelle est donc cette préparation ? Comment se préparer ? Bien sûr, c'est là le point important. Comment se préparer ?
J'aimerais vous donner cinq pensées, cinq fondements, si vous voulez, indispensables pour que vous puissiez trouver la bonne personne et fonder un foyer qui tiendra dans la tempête, qui tiendra dans l'épreuve. Car ces fondements sont nécessaires, seront nécessaires, surtout quand tout ira mal. Quand tout va bien, la maison bâtie sur le sable semble formidable. Et même celui qui a bâti sur le sable peut se moquer de l'autre, qui a bâti sur le roc et qui s'est fatigué, qui a attendu longtemps. Une maison bâtie sur le sable, ça se fait vite, n'est-ce pas vrai? Ça va très vite. Alors il y a ceux qui se marient très vite, très vite, très vite. Et vous voyez bien, tout va bien, mais formidable. Toi, tu cherches, tu cherches, tu cherches. De temps en temps, tu es au fond de ta tranchée, je ne te vois même plus. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être au fond de la tranchée, ne vous découragez pas. Il vaut mieux ne pas vous voir et que vous soyez dans la tranchée en train de creuser, et que de bâtir tout de suite la maison, et que le jour où la tempête arrive, c'est là qu'il y aura toute la différence. C'est le jour où tout ira mal, c'est le jour où l'épreuve viendra, que nous verrons exactement sur quoi vous avez bâti votre maison, votre foyer. C'est l'épreuve qui va révéler l'état de votre cœur et la condition de votre amour, la qualité de votre amour. C'est l'épreuve. Donc quand des jeunes entrent, oh tu es formidable, tout ça. Alors quand tout va bien, oh, j'irai jusqu'au bout du monde. Voilà. Ils comprennent rien, c'est genre zéro, zéro. Allez viens. Alors, c'est la grande folie. Moi, je ne suis pas contre ces choses-là, c'est bien. Mais le jour de l'épreuve va venir. Le jour viendra où ça ne sera pas toujours comme tu le penses. Le mariage n'est pas seulement privilège, le mariage est avant tout responsabilité. Hein, certains se marient. Oh là là, oui, il faut vite que je marie parce que moi, je ne peux plus rester seul. On se marie pour être heureux. Si vous vous mariez pour être heureux, vous bâtissez la maison sur le sable. Ah, oh, vous dites, mais qu'est-ce que vous racontez? Ah, là, je ne comprends plus rien. Là, vous dites des choses vraiment bizarres. Oui, c'est bien d'être heureux. On se marie pour être heureux, c'est bien, dans un sens. Mais si c'est le but de votre mariage, c'est la catastrophe. Vous ne vous mariez pas pour être heureux, vous vous mariez pour rendre l'autre heureux, votre conjoint heureux. Ça, c'est le signe d'une maturité spirituelle. Ça, c'est bâtir sa maison sur le roc. Vous êtes d'accord? De temps en temps, vous pouvez dire Alléluia quand ça vous plaît. Quand ça ne vous plaît pas, vous dites rien. Parce que je sais que parfois, c'est difficile de dire Alléluia. Je suis d'accord avec vous. Alors, digérez bien la pilule. Donc, c'est l'épreuve, le vent, l'inondation, la tempête qui va révéler ce qu'il y a dans votre cœur. Savez-vous que ce n'est pas... Je vais vous donner les cinq points, attention. Mais savez-vous que ce n'est pas le mariage qui crée des problèmes? Parce que bien souvent, on pense que c'est le mariage qui crée les problèmes. Le mariage ne crée rien du tout. Le mariage révèle les problèmes qui sont déjà dans votre cœur. Parce que vous pensez qu'en vous mariant et que vous avez tout de suite des problèmes, que oh là là... Alors c'est pour ça que certains ne se marient pas. C'est pour ça que maintenant, on commence à vivre comme ça, ensemble, sans être mariés et tout. Oh, parce qu'on dit, oh, en se mariant, ça crée des problèmes. Ça ne crée rien du tout. Le problème est déjà là, mais c'est le mariage qui le révèle. Le mariage est un révélateur des cœurs. Et lorsque tout va mal, et lorsque ça commence un peu à se battre, eh bien, vous révélez quoi? Vous révélez l'état de votre cœur. Et s'il n'y a pas eu, je ne veux pas dire par là que, étant marié, que tout sera parfait, pas du tout. Mais il y a un minimum de préparation. Voilà. Donc il faut un minimum de préparation. Si on attend la perfection, moi je ne me serais pas marié d'abord. Et certains d'entre eux qui sont mariés ici ne le seraient pas. Mais il y a quand même un minimum. Alors voyons donc ce minimum, ces cinq fondements. Indispensable pour trouver son conjoint et pour bâtir vraiment un foyer béni. Premièrement, le premier fondement est celui-ci, Savoir que le Seigneur nous a préparé un conjoint. Ça, c'est très important. Ça, c'est le premier point important. Savoir que le Seigneur lui-même vous a déjà préparé quelqu'un. C'est une bonne nouvelle pour vous, ça. Parce que vous, vous êtes en train de chercher celui qui vous plaît ou celle qui vous plaît. C'est bien. C'est très bien, même. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que le Seigneur, lui, dans ses plans d'amour à votre égard, a déjà prévu quelqu'un.
Et si nous destinons à rester célibataires,
ah, ben ça, c'est
autre.
Ah, ben ça, l'ex... Ah ben, oui, d'accord, ça, c'est une autre question. Le célibat, c'est une exception. Attention, je dis bien une exception. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont ce don de célibat. Parce que ceux qui ont le don de célibat, c'est tout à fait exceptionnel. Il y en a qui disent avoir le don de célibat, bon, ben ça va pendant quelques temps, mais à 30 ans, 40 ans, ils commencent à tourner la tête un petit peu. À la maison, ils lisent des livres pornographiques, la littérature pornographique, et ils regardent les femmes dans tous les coins, dans tous les sens, dans toutes les directions, et ils disent qu'ils ont un don de célibat, alors ça, c'est pas du tout le don de célibat. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, certains peuvent avoir quelque chose dans ce domaine-là, et il reste, il n'y a pas de combats spéciaux dans ce domaine-là. Mais si vous avez constamment des problèmes dans ce domaine, alors laissez-moi vous dire une chose, c'est que vous n'avez pas le don de célibat. Alors ne mettez pas aussi sur vous un joug que le Seigneur ne met pas, vous comprenez? Et si c'est le Seigneur qui met sur vous ce joug comme un don, eh bien vous pouvez supporter. Je ne veux pas dire que vous n'avez pas de combat, ce n'est pas là le problème, hein, on est encore sur terre. Mais vous pouvez supporter cette condition. Vous pouvez la supporter et ce n'est pas un handicap. Et vous n'avez pas l'impression de gâcher votre vie. Tandis que si autrement c'est un véritable handicap et que vous avez l'impression de gâcher votre vie et que vous n'arrivez pas vraiment à vous épanouir comme vous le voudriez, alors à ce moment-là, c'est clair que vous n'avez pas le don de célibat. Et, tu as compris là? Oui. C'est ça. Mais c'est une autre question, mais c'était bien. Oui.
Un ou le choix entre plusieurs? Du point de vue des trois voies.
Ah. Il y en a un que le Seigneur a préparé.
Un seul.
Ah, bah, bien sûr. C'est bien, c'est une bonne question. C'est très bien. Tu fais bien de le dire. Il y a pas de... On est là pour partager. Dieu a préparé pour Adam et une seule femme. Il n'en a pas préparé une dizaine pour qu'il les choisisse. Pour qu'il dise, ah voilà, tiens, sur ces 10 là, il y en a 3 qui me plaisent. Le Seigneur a préparé une femme pour Adam. La polygamie est en dehors du plan de Dieu. C'est la monogamie. Hein, une seule femme et le plan de Dieu. Ah non, il n'y a pas de une
par.
Ah non, non, ça n'existe pas. Si le Seigneur t'a préparé une femme, ou si pour les autres, un mari, il y en a un, c'est que c'est le meilleur, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. C'est que si tu en prends un autre, c'est à tes risques et périls. À tes risques et périls et à tes frais, peut-être pour toujours. Ah oui, mais c'est le mauvais choix est le principal problème dans la vie de beaucoup de personnes. Le mauvais choix. Et oui, c'est là le problème. Combien se sont mariés, mais avec la mauvaise personne? Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pourquoi vous devez réaliser. Je sais que ça bouscule peut-être, mais il vaut mieux être bousculé maintenant que d'être bousculé après le mariage. Eh oui, il y en a qui bousculent tellement leur mari ou leur femme qu'ils disent, allez, fille, maintenant tu t'en vas. Ou alors ils sont tellement bousculés qu'ils passent par la porte et qu'ils ne reviennent plus le soir. Et c'est terminé. Une bonne question. Pardon? Mais justement, non, mais c'est bien. Non, mais écoute, mais c'est justement. Mais, eh oui, mais c'est pour ça que le mariage est quelque chose de sérieux. Eh oui, c'est plus sérieux que tu le penses. C'est ça, c'est pour ça. Beaucoup maintenant, on a fait du mariage, allez, dans, on se plaît, voilà, allez. On fréquente par-ci, ça bécote par-là, ça s'habite par-là, et voilà. Oh, bah, si avec elle, je ne m'entends pas bien, je vivrai avec une autre. Et puis voilà, ça c'est pas du tout, ça c'est pas du tout dans le plan de Dieu. C'est beaucoup plus facile d'aller te courir à gauche et à droite, hein, que de se placer devant Dieu et de nous demander le conjoint que Dieu veut nous donner. Et Dieu ne nous fera pas attendre plus qu'il ne faut. Dieu connaît l'état de votre cœur, il ne vous fera pas attendre plus qu'il ne faut, mais bien souvent à cause de notre impatience, à cause de nos inconséquences, à cause de nos choix à nous, il est obligé d'attendre et il ne peut pas faire comme il le voudrait, parce qu'on a déjà, nous, décidé dans notre cœur de prendre celle ou celui qui nous plaît. Ah oui, c'est très sérieux le mariage. C'est la plus importante décision de la vie de quelqu'un. Il y a premièrement, bien sûr, la conversion, c'est la première décision importante. Se donner à Jésus, le salut, c'est la plus importante décision de ça. Mais après le salut de l'âme, le choix du conjoint est la chose la plus importante. Et celui qui prend ces choses à la légère, eh bien c'est assez risqué et périlleux. C'est assez frais. Il y a assez de souffrances. Il y a assez de tourments, assez de problèmes dans les familles pour que cela nous pousse à réfléchir et qu'on réalise que ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Ça, c'est capital. La mentalité d'aujourd'hui est un peu, bon, bah, si ce n'est pas celui-ci, ce sera l'autre. Bon, quand on aura fait un peu toutes les filles du village, et ben, peut-être qu'on trouvera quelque chose. Mais ce n'est pas ça. Alors Dieu, et si alors vous allez noter, c'est le premier pas important. Et celui ou celle que Dieu vous a préparé, écoutez-moi bien, c'est exactement la personne qu'il vous faut. Voilà. Parce que sur le moment, peut-être que vous ne réalisez pas tout ça, mais celui ou celle que Dieu, c'est exactement celui ou celle qu'il vous faut. Celui que Dieu vous prépare, ce n'est pas quelqu'un qui ne vous plaît pas. Parce que beaucoup ont la pensée que si je laisse entre les mains de Dieu, il va m'envoyer une vieille fille par là, et puis je ne vais pas pour moi, ou alors un vieux garçon, rien du tout, il ne sera pas beau, il ne sera pas ceci, cela, et puis, oh là, non, c'est trop sérieux, je ne peux pas remettre ça entre les mains de Dieu, c'est moi qui dois me débrouiller. Mais Dieu n'est pas stupide. Dieu est beaucoup plus grand, plus beau, plus artistique, plus romantique que vous. Et celui ou celle qu'il a préparé vous conviendra aussi bien physiquement, moralement que spirituellement, dans tous les domaines. Mais il faut savoir attendre et savoir aussi que lui a préparé quelqu'un. Et si vous ne prenez pas le bon conjoint, vous gâcherez toute votre vie. Non seulement votre vie, mais la vie de vos enfants, si vous en avez, votre famille, tout le monde en souffrira. Et vous n'accomplirez pas le plan de Dieu dans votre vie. Parce que si ce n'est pas la femme ou l'homme ou le jeune homme qu'il vous faut, eh bien toute votre vie risque de prendre une autre orientation. Moi je sais que là aussi le Seigneur m'a gardé. Si j'avais été dans une certaine direction, eh bien je ne serais peut-être pas prédicateur aujourd'hui. Et toute ma vie, mon ministère aurait été complètement gâché. Parce que quand on se marie, c'est pour toujours. C'est pour toujours, c'est pas le jour dans 15 jours, dans 15 mois, si elle me plaît pas, incompatibilité d'humeur, qu'on va dire, ah ben maintenant, oh ben oui, oh ben non, on s'entend pas tous les deux, au revoir. Comme beaucoup font malheureusement. Et ça, ce n'est pas du tout dans le plan de Dieu. C'est pourquoi il y a une préparation, c'est quelque chose de sérieux. Et Dieu vous a préparé quelqu'un. C'est une merveilleuse nouvelle. Il vous a préparé quelqu'un. Celui de vos rêves. Je crois que vous auriez pu dire alléluia là. C'était un peu romantique là. Mais c'est ça. Mais c'est celui de vos rêves. Donc c'est celui que ou celle que vous désirez dans votre cœur. Dieu n'est pas contre le mariage. Dieu n'est pas contre le sexe à l'intérieur du mariage. C'est Dieu qui a créé le sexe. C'est Dieu qui a créé tout ça. Toutes ces choses dans leurs limites, dans leur cadre sont parfaitement pures et légitimes. C'est quand on sort du cadre que Dieu a voulu qu'il y a des catastrophes, il y a des scandales, il y a des choses abominables qui se passent. Mais tel que Dieu l'a voulu, il n'y a rien de plus beau que le mariage. Il n'y a rien de plus beau. Et maintenant, pourquoi les jeunes ne se remarient plus ou vivent en... Parce qu'ils ont peur du mariage. Il y a tellement d'exemples aussi négatifs autour d'eux qui se disent, mais si c'est pour devenir comme cela, il est vrai que certains jeunes aussi n'ont pas toujours le bon exemple à la maison. Certains jeunes sont échaudés, blessés, traumatisés par l'attitude des parents. Et à cause de là, se disaient, ben, je ne sais pas si moi demain, si c'est pour faire la même chose chez moi, ou si c'est pour que mon foyer soit comme ça, je n'ose pas. Alors bien sûr, les mauvais exemples ont été là, mais cela n'empêche pas que Dieu a un plan parfait pour vous. Les exemples négatifs des autres doivent vous servir de leçon, afin que vous puissiez faire ce que Dieu veut que vous fassiez et que sa bénédiction soit dans votre foyer. Alors ça, c'est le premier point. Ce n'est pas vous qui devez choisir votre conjoint. Bien sûr, oui, dans un sens, c'est vous. Mais Dieu a pourvu à quelqu'un. Dieu, dans ses plans d'amour, a préparé quelqu'un. Et c'est exactement la personne qu'il veut. Voilà. Il faut déjà le savoir, cela. Sinon, on peut se dire, mais moi... Bon, je sais pas qui choisir et tout. Je m'en sors pas dans ce domaine-là. Si on commençait par dire, oh Seigneur, moi je ne sais pas, mais toi tu m'as déjà préparé quelqu'un, c'est déjà quelque chose. C'est déjà un acte de foi, c'est déjà une première libération, parce qu'on sait que Dieu a déjà pourvu, c'est pas encore là, mais c'est quand même là, par la foi. C'est déjà là. Dieu a déjà prévu et pourvu quelqu'un pour. Alors vous pouvez déjà vous réjouir parfois. Hein? Au lieu de dire, oh, j'ai personne. Oui, tu as personne, d'accord, maintenant. Mais le Seigneur a quelqu'un, lui, pour toi. Voilà, on peut, avec ce premier fondement, il n'y a plus de questions. On attaque le deuxième fondement. Alors, deuxième fondement maintenant. Il faut en faire un sujet de prière sérieux. Une fois que Dieu, vous savez, a préparé quelqu'un pour vous, vous devez en faire un sujet de prière. Et vous devez pouvoir tout dire au Seigneur. Seigneur, tu vois mon cœur, mon désir de me marier. Mais c'est tout à fait normal. Certains d'entre vous, vous n'osez pas aussi dire au Seigneur ce que vous ressentez. Mais dites-lui. Vous avez des combats dans tel domaine, mais dites-le lui. Seigneur, tu vois mes combats. Tu vois mes problèmes dans ce domaine-là. Eh bien, Seigneur, je t'apporte tout cela. Et vous pouvez, en attendant que Dieu vous donne la bonne personne, ouvrir votre cœur au Seigneur et dire les combats que vous avez et en faire un sujet de prière sérieux. Seigneur, eh bien maintenant, je m'attends à toi pour que tu me donnes la bonne personne au bon moment. Et c'est dans la prière que Dieu aussi vous aidera à tenir le coup. Et c'est dans la prière aussi que vous pourrez vous décharger sur le Seigneur de vos fardeaux. Parce que je sais, il y a des combats. Il y a des combats, il y a des problèmes. Mais c'est dans la prière que vous pourrez vous décharger de tout cela. Et le Seigneur vous comprend, vous pouvez tout lui dire, et il vous aimera encore. N'est-ce pas merveilleux? Vous pouvez tout lui dire. Il sait tout, il ressent ce que vous ressentez. C'est pourquoi, loin de vous condamner ou de vous rejeter, il vous comprendra. Et dans la prière, il vous donnera la force de tenir jusqu'au grand jour, jusqu'au jour J. Ah, c'était le moment de dire Alléluia. Alors bien sûr, si on ne prie pas, parce que c'est dans la prière que Dieu nous donne la force de tenir, vous êtes d'accord avec moi? Parce que si vous ne priez pas, je vous assure, les tentations sont là, alors vous n'aurez pas la force de tenir le coup. C'est pourquoi il vous faut, quand la tentation vient, quand vous sentez qu'il y a vraiment de grands combats, allez au Seigneur. Là, lui seul vous donnera la force, lui seul. La force de tenir le coup, de supporter jusqu'au jour où il vous donnera ce que votre cœur désire. Donc d'où l'importance d'en faire un sujet de prière et lorsque le combat est grand, de rester dans un esprit de prière, de tout lui dire et de recevoir de lui la force, le secours, la consolation dont vous avez besoin pour tenir le coup. Des questions pour ce deuxième point? Mais là, il ne faut pas négliger cela aussi. Je sais que malheureusement, on peut facilement négliger la prière Et en négligeant la prière, naturellement, Dieu ne peut plus nous aider. Il voudrait nous aider. Il n'y a que dans la prière que nous pouvons rétablir le contact avec Dieu. Et c'est là qu'il nous fortifie. Vous en avez certainement fait l'expérience dans la prière. Combien vous êtes renouvelé, encouragé. Tout à coup, il peut aussi vous parler, le Seigneur, dans la prière. Il peut se passer mille choses dans la prière pour toujours vous encourager à persévérer, vous donner la force de surmonter la tentation aussi. Quand la tentation est là comme un feu qui vous dévore, il n'y a que le Seigneur qui pourra vous donner la force. Mais c'est pourquoi allez dans ses bras, dans la prière, ouvrez-lui votre cœur, dites tout au Seigneur, ceci est très, 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 très important. Ce n'est pas du tout le conseil des psychologues d'aujourd'hui, je ne suis pas contre les psychologues, mais il y a des psychologues qui, eux, sont contre le Seigneur, et ça c'est une autre affaire. Quand on vous dit, par exemple, que ben, quand tu as des envies, vas-y, décharge-toi un petit peu. Vas-y, mais va donc, quand tu as envie, mais vas-y. Voyons. Alors, une fois que tu... Il faut te libérer un petit peu, il faut te défouler. Oui, mais c'est ce qu'on entend. Et malheureusement, certains obéissent à cela. Mais après avoir fait ces choses, la culpabilité augmente encore d'autant plus. Oui, sur le moment, il y a toujours un certain plaisir dans le péché, sur le moment. Mais le péché, il faut le payer cher. Je le dis souvent, le péché est comme une abeille. Alors, d'abord, il y a le petit miel par ici, hein, le miel. Hein, le péché donne beaucoup de plaisir, c'est vrai. Mais l'abeille, qu'est-ce qu'elle a aussi? Il y a le dard. Au bout d'un certain temps, vous allez payer. Le péché se fera payer. Et c'est la mort. Et c'est le jugement, et c'est la culpabilité, et c'est les remords. Et tout cela, ça viendra un jour. C'est pourquoi ce n'est pas auprès de la sagesse de ce monde que vous pourrez obtenir la consolation et la force dont vous avez besoin. Ce n'est qu'auprès du Seigneur. Qu'auprès du Seigneur. Le Seigneur seul pourra vous aider, et dans la prière, il vous aidera. Il vous fortifiera. Il vous gardera aussi. C'est très important, très important. Une question? Non. Voilà. Maintenant, troisième fondement. Il faut attendre en servant le Seigneur. Voilà comment il faut attendre. Pas seulement prier, c'est bien, quand la tentation est bien, elle vient, tout cela. Mais il faut aussi attendre en servant le Seigneur, en ayant une activité pour le Seigneur. Parce que si vous passez toutes vos journées à penser qu'aux garçons ou aux filles, alors là, c'est la catastrophe. Alors là, et malheureusement, il y a des garçons et des filles qui ne pensent qu'à cela. Toute leur conversation, dès qu'ils se voient, ça tourne là-dessus. Alors là, c'est maladif, il y a quelque chose qui ne joue plus. Là, il y a quelque chose qui ne joue plus. Pour pouvoir être libéré de cela, il faut attendre, non pas dans l'obsession, mais attendre en ayant une activité pour le Seigneur. Et lorsque vous vous donnez à une tâche pour le Seigneur, une certaine activité, eh bien vous ne pensez plus à ces choses-là. Et c'est une libération. Et cela, ça vous permet de patienter. Il vous faut trouver déjà une satisfaction en autre chose. Et le Seigneur vous donnera des consolations, des compensations dans une certaine activité, dans le témoignage, enfin, dans un engagement chrétien. Ceci est indispensable. Sinon, vous vous sentirez frustré. Mais dans l'engagement pour le Seigneur, là, vous aurez des joies, des consolations qui vous permettront de tenir le coup. Donc, il ne faut pas attendre comme cela, complètement ahuri, obsédé, mais en ayant ses pensées, non plus sur ces choses-là, mais sur le Seigneur et sur un travail qu'il nous demande. C'est pourquoi chaque jeune devrait être engagé. Parce que si vous ne travaillez pas pour le Seigneur, si vous ne faites pas quelque chose pour le Seigneur, eh bien vous allez faire autre chose. Et vous allez automatiquement tourner autour de vos problèmes, et finalement, vous n'en sortirez pas. Quels sont ceux qui ont toujours beaucoup de problèmes? Ce sont ceux qui ne pensent qu'à leurs problèmes. Mais si vous commencez un peu à vous pencher sur les problèmes des autres, eh bien, vous verrez que vos problèmes seront aussi plus facilement résolus. Vous supporterez davantage vos problèmes. C'est pourquoi il faut sortir de vous-même. Si vous ne pensez qu'à vous, vous n'en sortirez pas. Donc ayez une activité, faites quelque chose pour le Seigneur. Dans l'Église, il y a toujours quelque chose à faire. Engagez-vous. Dans un domaine ou dans un autre, la guitare, le chant, le témoignage. Faites quelque chose. Ne tournez pas en rond dans votre chambre ou à l'Église. Engagez-vous, faites quelque chose. Sinon, vos pensées seront obsédées uniquement par ces choses-là. Et vous vous sentrez coupable aussi, parce que dans le fond de votre cœur, vous allez dire, mais c'est pas possible, je pense qu'à ces choses, moi. Du matin au soir, je ne pense qu'à ça. Mais c'est de votre faute un petit peu. Parce que si vous vous engagez dans une activité, si vous allez un peu vous pencher sur les problèmes des autres, si vous allez un peu voir la souffrance qu'il y a chez les autres, eh bien, vous commencerez à partager un peu les problèmes des autres, et vous ne penserez plus aux vôtres. Ou vos problèmes, en tout cas, n'auront pas le dessus, ne domineront pas constamment vos pensées ou vos actions. Est-ce que vous saisissez ma pensée, là? Ça, c'est très important. C'est pourquoi chaque jeune doit être engagé. Chaque jeune. Sinon, vous allez tourner autour de vous-même, et puis les problèmes sexuels vont vous rôder autour. Et puis, alors, chaque fois qu'il y a un garçon qui apparaît, tiens, c'est peut-être lui. Ah, c'est lui. Je crois bien que c'est lui. Ah, il a les beaux yeux bleus, celui-là. Ah, t'as vu, il m'a regardé. Encore? Il m'a regardé. Ah. Oh, maman, ça y est, je l'ai trouvé. Ça y est, c'est lui. Le lendemain, elle revoit le jeune homme, le garçon, il ne regarde pas du tout. Maman, c'est fini. Il m'a même pas regardé, tu dois encore. C'est pas possible. Maman, je vais faire une dépression, c'est fini. Le Seigneur ne m'aime plus, personne ne m'aime. Voilà ce que c'est quand on est constamment obsédé par cette phrase. Et laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur ne vous fera pas atteindre plus qu'il ne faut. Soulignez bien cela. Je sais qu'on désire tous. Moi aussi, je désirais me marier. On brûle tous. Ah, moi, j'étais comme vous. Je ne suis pas un ange, j'y suis descendu du ciel. Hein. J'avais aussi mes problèmes, mes combats. Et je ne suis pas meilleur que vous, ou les pasteurs ne sont pas meilleurs que vous, on est tous les mêmes, n'est-ce pas vrai? On est tous fait la même chose, et dans ce domaine-là, on a tous les mêmes problèmes. C'est pourquoi on a les mêmes problèmes, mais si nous faisons certaines choses, eh bien le Seigneur peut nous aider à surmonter ces problèmes. Et là, dans ce domaine, les jeunes qui sont oisifs, ce sont les jeunes qui font justement les plus tristes expériences. Et finalement, puisqu'ils n'ont rien à faire, ils pensent aux garçons ou aux filles, et puis alors, ça y est, c'est celui-là. Bon, alors après, finalement, ça s'amourache, et puis voilà, ça se marie dans les 15 jours qui suivent, et puis dans les 15 jours qui suivent après, ben, ça commence déjà les matchs de boxe à la maison, on voit les assiettes qui sortent par la fenêtre, et voilà, et ça y est, c'est terminé. On pensait, ça avait si bien commencé. Pourtant, c'était si beau. Parce qu'on a choisi celui qu'on voulait. On était obsédé par ce problème, et finalement. Et le Seigneur nous laisse faire, vous savez. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi le Seigneur il m'a laissé faire? Mais qui es-tu? Tu n'es pas un automate. Tu es libre de tes décisions. Le Seigneur t'a créé libre. Et si tu veux prendre celui-là plus que l'autre que Dieu a décidé, si tu veux prendre celui-là, le Seigneur te laissera prendre. Il te laisse libre. Si tu as décidé de prendre celui-ci au lieu de prendre l'autre que Dieu t'a destiné, eh bien, le Seigneur te laissera faire. Chacun est libre dans ce domaine-là. C'est pourquoi vous devez utiliser votre liberté à bon escient et judicieusement, d'une manière qui soit dans la pensée du Seigneur. Mais ne dites pas, parce que je sais, il y en a... On suit un cas actuellement où c'est un peu ça. La jeune fille fréquente un jeune homme qui, enfin, on lui a dit, pour elle, ce n'est pas du tout le jeune homme qu'il faut. Alors elle a dit, je crois, mais si c'est pas du Seigneur, il peut arrêter tout ça. Ah, regardez la subtilité. Il peut arrêter tout ça. Comme si le Seigneur du ciel va venir pour la prendre par les deux oreilles ou les deux mains, maintenant tu t'arrêtes. Comme si elle était une automate pour lui dire maintenant, voilà, tu ne dois plus aller avec ce jeune homme. Pas du tout, le Seigneur ne fera jamais cela. Si vous faites quelque chose et dans le fond de votre cœur, vous savez que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors ne demandez pas à Dieu de vous arrêter. Il vous l'a déjà dit, c'est à vous d'obéir. Et si vous dépassez sa parole, si vous faites quelque chose qui est en contradiction avec sa parole, ne lui demandez pas de vous arrêter. Il vous a déjà parlé, mais vous n'avez pas obéi. Il a déjà dit non, et vous vous dites oui. Alors comment voulez-vous que ça marche? Ça ne marche pas. Voilà, il y a encore des questions pour ça? Est-ce que je parle trop? Non, je crois que je... Je vous secoue un petit peu, hein? Non, je vous secoue. Non, je vous secoue pas. Je sais qu'il faut dire certaines choses. Et on vous aime tellement en tant que responsable qu'on ne voudrait pas que vous fassiez, preniez des mauvaises décisions. C'est tellement important, tellement important. Et c'est celui qui vous aime qui vous dit la vérité. Vous savez, quand quelqu'un dit « Ah oui, va, tu fais comme tu veux, tu penses et tout », ces personnes-là ne vous aiment pas vraiment. Et c'est pourquoi il faut voir les choses en face. Quelqu'un a dit, avant le mariage, il faut avoir les yeux grands ouverts. Et après le mariage, il faut avoir les yeux entre-ouverts. Vous avez compris ce que je dis là? Il faut que je répète. Avant le mariage, il faut avoir les yeux grands ouverts. Autrement dit, il faut faire le bon choix. Mais une fois que le choix est fait, après le mariage, il faut avoir les yeux entre-ouverts. C'est fini après, c'est plus le moment de discuter. Une fois que vous avez choisi, après, il faut commencer à essayer d'arranger, de s'harmoniser, de s'adapter. C'est plus le moment de dire maintenant, il faut que je recommence, c'est terminé. Après, c'est entre-ouvert et maintenant, vous devez supporter, vous devez patienter, et c'est terminé. C'est pas après le mariage qu'il faut avoir les yeux grands ouverts. Quelqu'un a dit un jour que l'amour est aveugle. Mais c'est le mariage qui lui redonne la vue. Oui, mais ça aussi, justement, avec la jeune fille en question dont je vous parlais tout à l'heure, je vois bien, elle est complètement aveugle. Et je vois bien que le mariage rend aveugle. Le mariage rend aveugle. Je veux dire, l'amour, quoi. L'amour, oui, le mariage. L'amour rend aveugle. Littéralement, alors, littéralement aveugle. Elle ne voit rien. Que ses sentiments, hein, il est gentil, mais il est si beau. Chaque fois que je le vois, oui. Mais on lui a dit, mais il y a ça qui ne va pas. Oh, mais comment, est-ce que Dieu est contre les sentiments? Voyez-vous, d'affronter ce que Dieu dit, et de croire la parole, et d'obéir à la parole concernant votre mariage, alors vous êtes aveuglé. L'amour vous rendra aveugle. Si vous aimez quelqu'un et que dans ses fréquentations, il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole, alors à ce moment, et que vous persistez là-dedans, alors vous êtes aveugle. Et le mariage vous ouvrira les yeux, mais ce sera trop tard. Pour parler de cette jeune fille, elle a justement un papa, une maman où ça ne marche pas. La maman est convertie, lui n'est pas converti. Et c'est des scènes de ménage. Elle dit elle-même, « Oh, je ne veux pas me marier et avoir un ménage comme ça. C'est trop tragique. C'est la catastrophe. Lui boit, enfin, c'est affreux. » Mais elle est en train de prendre le même chemin. Le même chemin. Lui est inconverti. Et son mari, son papa, est aussi un converti. Mais tu vois pas? Là, je vous ai donné un point que je vais donner pour terminer. Un point très important. Ceci pour dire que l'amour vraiment rend aveugle. Et finalement, ce n'est pas le véritable amour quand on parle de cela. C'est plutôt les sentiments ou la sexualité. Mais le vrai amour divin ne rend pas aveugle. Le vrai amour... C'est un amour sensé, c'est un amour équilibré, c'est un amour qui nous fait considérer ce que la parole de Dieu dit. C'est un amour plein de sagesse. Tandis que l'autre dont on parle, l'amour qui rend aveugle, c'est plutôt les sentiments et le bouillonnement dans nos membres qui fait qu'on ne voit plus rien du tout. Alors, où on en est? Combien de points? Combien de fondements je vous ai donné?
Trois.
Ah, il faut... Vous les voulez, les deux autres?
Oui.
Ah, je ne vous les donne pas. Ah, je ne vous les donne pas. C'est, je vous les donne. Quatrième fondement, maintenant. Vous devez connaître le rôle, votre rôle, dans le mariage. Ça, voilà, il faut se préparer pour cela. Vous devez connaître votre rôle dans le mariage. En tant que mari, quel est ton rôle? Et en tant que femme, quel sera ton rôle? Vous devez connaître votre rôle. Combien se marient ne savent pas exactement quelles sont les responsabilités dans le foyer? Ils ne savent pas. Et cette ignorance est tragique et a des conséquences vraiment. Alors, tu te maries en tant que garçon, en tant qu'homme, quelles sont tes responsabilités? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais à quoi tu t'engages en tant qu'homme? Et vous, en tant qu'épouse, est-ce que vous savez quelles sont vos responsabilités? Il faut vous préparer à cela. Il ne faut pas tomber des nues après le mariage. Ah, j'ai cru que... Ah, mais c'est trop tard. C'est pas après, j'ai cru que il faut... C'est trop tard, c'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est pourquoi hier soir, on a parlé de responsabilité du mari. Je vous exhorte, franchement, à bien écouter ces messages. Et si vous avez d'autres lectures dans ce domaine-là, il faut absolument vous préparer. Ce soir, nous parlerons de la responsabilité de l'épouse à l'égard de son mari. Mais c'est très important. Il faut que le mari sache quels sont les besoins de sa femme et la femme sache aussi quels sont les besoins de son mari. Et quelles sont, pour tous les deux, leurs responsabilités devant Dieu. Le mari est donc le responsable, il est le chef de la femme, il est dit. Et le chef ne veut pas dire le dominateur, ne veut pas dire le patron. Quand la Bible parle de chef, là, cela veut dire il est le principal responsable. Et quand quelque chose ne va pas dans le foyer, là, le mari est le premier responsable. Mais quand quelque chose ne va pas, tout de suite le mari, c'est ma femme. Et puis alors vous allez voir la petite femme, eh ben, c'est mon mari. C'est toujours la même chose. Alors il faut aussi prendre vos responsabilités. Le mari est le premier responsable. Et devant Dieu, c'est le mari qui est le premier responsable lorsque quelque chose ne va pas. C'est un signe de peu de maturité spirituelle quand le mari rejette toujours la responsabilité sur sa femme. Et si vous n'êtes pas prêt à assumer vos responsabilités dans ce domaine-là, vous n'êtes pas prêt pour vous marier. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous êtes encore un gamin. Un gamin qui veut se marier. Qu'est-ce que ça peut faire? Il pense qu'à ses jouets, qu'à ses billes, au chewing-gum. Au mariage, il ne pense que ce qu'il peut recevoir de sa petite femme. Qu'est-ce que ma femme va me donner? Des billes, des chewing-gums, des cacahuètes. Vous comprenez mon langage? On ne vient là au mariage que pour recevoir de sa femme. Le jour où il faut prendre des décisions, le jour où il faut s'engager, prendre des responsabilités, allez voir ma femme, c'est elle qui fera ça. Il y a ça à faire. Ah non, allez voir ma petite femme, c'est elle. On ne veut que des privilèges, mais on ne veut pas prendre de responsabilités. Et on vit, notre génération est une génération comme ça. On ne veut plus de responsabilités, on ne veut que des privilèges. Et si vous vous mariez uniquement pour avoir des privilèges, vous bâtissez sur le sable. Et tôt ou tard, la maison s'écroulera. Ça ne sert à rien d'accuser sa femme. Ça ne sert à rien de dire c'est ta faute quand toi tu n'es pas prêt à prendre tes responsabilités. Et la femme aussi doit connaître son rôle. J'en parlerai ce soir, cela, le rôle de la femme. Quel est le rôle de l'épouse devant Dieu et devant son mari? Qu'est-ce que Dieu vous demande? Là aussi, vous devez le savoir. Cette place de soumission. Mais je vous expliquerai ce soir, donc on parlera plus en détail là-dessus ce soir. Donc, le point important maintenant, ce quatrième fondement, est de connaître chacun ses responsabilités, son rôle. Pour se préparer, il faut savoir ce que Dieu vous demande. Peut-être que c'est pour ça que Dieu vous fait attendre aussi, parce que vous n'êtes pas prêt. Combien d'entre vous vous voulez, mais si vous n'êtes pas prêt, Dieu ne peut pas vous envoyer aussi la personne qu'il vous faut. Si vous étiez prêt, ben, ça irait plus vite aussi. Il faut aussi savoir se préparer. C'est pas après le mariage qu'on se prépare. Il y aura autre chose à faire à ce moment-là, bien sûr. Mais avant le mariage, il y a une préparation. Il faut connaître votre propre responsabilité. Et pour terminer, un cinquième fondement, j'en ai fait mention un tout petit peu tout à l'heure, c'est avoir une même foi et une même vision spirituelle. Avoir une même foi et une même vision spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous ne pouvez pas vous marier avec n'importe qui. Il faut premièrement qu'il soit chrétien. Si vous êtes chrétien, vous devez vous marier avec une chrétienne. Et pas seulement n'importe quel chrétien ou chrétienne, il faut que ce chrétien ou chrétienne ait la même vision spirituelle que vous. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut que vous ayez des atomes crochus ensemble, spirituellement. Dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la vie chrétienne, avoir les mêmes aspirations. Par exemple, si vous avez envie d'aller comme missionnaire et que votre petite femme, elle a envie de rester dans sa petite maison et que vous le savez, alors ça n'ira pas. Si vous, dans votre cœur, vous avez l'appel pour aller en mission et votre femme, elle, vous dit qu'elle n'a absolument rien dans ce domaine-là, tous les deux, vous êtes chrétiens tous les deux, mais vous n'avez pas la même vision et ça n'ira pas. Alors ça, c'est valable pour la mission, mais c'est aussi valable ici, sur place. Ici, sur place, vous devez avoir les mêmes aspirations. C'est pourquoi il faut parler de ces choses spirituelles avant de vous marier. Ah, il est chrétien, ça va, ça suffit. Ça ne suffit pas, c'est bien, il faut qu'il soit chrétien. Mais pas n'importe quel chrétien, il faut aussi quelqu'un avec lequel vous vous entendez spirituellement. Vous pouvez prier, vous pouvez communier, vous avez les mêmes désirs, les mêmes aspirations. Est-ce que vous comprenez ma pensée là? Parce que tous les chrétiens n'ont pas la même consécration et le même désir de servir le Seigneur. Il y en a qui ont mis une vie chrétienne au rabais. Au rabais. Je suis sauvé, c'est terminé. Mais ne m'en demande pas plus. Prière, lecture biblique, témoignage, consécration, non, rien de tout ça. Sauvé et puis un petit culte de dimanche matin, c'est terminé. Surtout, ne m'en demande pas plus. Et vous, vous désirez témoigner, vous désirez être fidèle, vous désirez chanter pour le Seigneur, enfin, vous désirez avancer, progresser. Et vous voulez vous marier avec quelqu'un comme ça, qui est satisfait avec son petit culte du dimanche matin? Vous allez au-devant de grandes difficultés. Au-devant de grandes difficultés. Et ne pensez jamais que vous pourrez le changer. Ça, on le verra ce soir aussi. Ne pensez jamais que vous pourrez changer votre conduite. Vous vous faites des illusions. Donc, dès le départ, il faut avoir une même foi. Il faut que le conjoint soit chrétien, comme vous, et aussi une même vision, dans le même esprit, le même désir de servir le Seigneur. Sinon, vous allez au-devant de grandes difficultés. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Voilà cinq fondements, cinq points importants qui nous aideront, qui vous aideront à prendre les bonnes décisions, à être dans les bonnes dispositions. Alors, je ne sais pas maintenant s'il y a encore des questions. Chacun s'en dit.
On ne voudrait pas que quelqu'un, effectivement, s'en aille en ayant encore une question sur le cœur. Donc, si quelque chose n'était pas tout à fait clair, ou si vous désirez un complément d'information.
Oui, sentez-vous libre, oui.
Bon, alors, admettons que deux chrétiens, par exemple, bon, un chrétien et une chrétienne qui se rencontrent, qui se connaissent, bon, et qui se croient être destinés.
C'est ça, oui.
Bien. Et par la suite, admettons que ça n'aille pas, et qu'éventuellement, ils se soient trompés. Mais nous n'en sommes pas sûrs, alors, qu'est-ce qu'ils font?
Oui, mais ils sont mariés, ces deux, là?
Non, enfin, c'est un exemple que j'ai pris.
Oui, mais tu prends... Je les connais pas. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que tu les considères mariés dans ta pensée?
Non,
c'est pendant le temps des fréquentations?
Voilà.
Oui, alors, pendant le temps des fréquentations, là aussi, le temps des fréquentations est un temps spécial, un temps de préparation. Et malheureusement, certains n'utilisent leur fréquentation qu'à un niveau. Et vous savez ce que je veux dire. À un niveau tout à fait corporel et physique. Ils ne se voient que pour s'embrasser et pour s'échauffer l'un l'autre. Alors que les fréquentations ne sont pas faites pour cela. Ce genre de choses est fait pour le mariage. Et c'est pourquoi je réponds à ta question. C'est que les fréquentations sont faites pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler, pour pouvoir partager, pour pouvoir prier ensemble et voir si quelle est la pensée aussi du Seigneur ensemble. Mais sans aller jusqu'à ce niveau de contact physique. Parce qu'à un moment donné, très souvent dans les fréquentations, ça va trop loin. Et ça a été même un peu trop loin que finalement on est obligé de se marier. Sans avoir été même jusqu'au bout, vous comprenez? Sans avoir été jusqu'au bout, mais moralement on est presque engagé, puisqu'on a été quand même jusque-là. On n'a pas été jusqu'au bout, mais on a été jusque-là. On est comme lié. Alors les sentiments jouent, et puis finalement on se marie. Alors le temps des fréquentations n'est... Pardon, tu voulais dire? Oui, attends, non, juste termine alors ma pensée. Donc le temps des fréquentations n'est pas un temps pour tous ces contacts physiques. Le temps des fréquentations est un temps justement où l'un comme l'autre, vous priez, vous recherchez la face du Seigneur, où vous restez amis sans plus. Sinon, s'il y a le sentiment qui est trop, qui imprègne trop l'un et l'autre, et le contact physique est là, votre jugement est faussé. Vous êtes échauffé, le jugement est faussé, et vous ne pouvez plus discerner la pensée du Seigneur. Et c'est pourquoi après, au bout d'un certain temps, vous réalisez que, eh bien, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Mais en attendant, des dégâts ont été faits. Et vous n'avez pas utilisé les fréquentations pour véritablement connaître la pensée du Seigneur. Mais comme vous êtes échauffé dans toutes sortes de domaines, et après, il y a une certaine culpabilité qui est là, au point où on en est, bon, maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Et non, ça ne va pas. Et c'est comme cela qu'il y a des catastrophes. C'est pourquoi les fréquentations doivent se faire d'une manière très très sérieuse, très très sérieuse. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des fréquentations, c'est pour ce but-là. Et il y a un certain stade que vous ne devez pas dépasser. Il y a un certain stade qui est limité pour le mariage. C'est à l'intérieur du mariage. Si vous dépassez ce stade, vos sentiments seront faussés, votre jugement sera faussé, vos prières même ne serviront à rien, parce que vous avez dépassé un stade que Dieu ne voulait pas que vous dépassiez. Donc c'est très important, les fréquentations, c'est pour se connaître et pour voir si vraiment on est fait l'un pour l'autre. Alors en tant qu'amis, on peut discuter comme ça, c'est bien. Mais justement, si vous allez trop loin, après, il y a quelque chose qui joue.
Et comment en être vraiment sûr que celui-là ou celle-là nous est...
Eh bien voilà, alors là, il faut personnellement en faire un sujet de prière devant Dieu. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en faire un sujet de prière devant Dieu. Et aussi, nous pouvons demander le conseil de nos parents, le conseil du pasteur, de votre responsable spirituel. Si vous prenez une décision un peu seule et à la sauvette dans ce domaine-là, en disant « personne ne me comprend » et tout, alors là, ça ne va pas du tout. Il faut bien faire attention. La décision, bien sûr, finale vous appartient, c'est vrai, c'est vous qui vous mariez. Mais dans ces cas-là, vous priez sincèrement, vous demandez le conseil de vos parents, vous demandez le conseil de personnes aussi spirituelles en qui vous avez confiance. Aussi le pasteur, le responsable qui est là pour vous donner aussi le bon conseil dans ce domaine. Et la décision finale vous appartient, bien sûr. Mais si vous ne demandez pas de conseil, si vous ne... alors là, c'est dangereux. Il faut bien faire attention.
Une question.
Oui.
Admettons que... Donc, ce soit deux chrétiens qui sont destinés, se sont mariés, est-ce que les disputes sont pour autant éloignées?
Ah non, pas du tout. Mais tu sais, il y en aura des disputes. On n'est pas... Tu sais, il y en aura. Parce que, tu comprends, toi et puis ta femme, vous aurez chacun son tempérament, chacun son caractère. Mais c'est pas les disputes qui sont un problème. C'est quand on n'arrive pas à résoudre les disputes que ça devient un problème. Donc, il y en aura des disputes, il y en aura. Le tout, c'est de les résoudre ensemble, de retrouver ensemble le chemin du dialogue, de l'harmonie, et puis de résoudre ces problèmes, s'humilier quand il le faut, faire ce qu'il faut faire, et puis ainsi, petit à petit, le mariage se perfectionne et se purifie. Il y en aura, il y en aura, parce qu'on n'est pas encore sur au ciel. C'est pourquoi il ne faut pas tomber d'eau, il ne faut pas penser que le mariage, tout à coup, va résoudre tous les problèmes. Il y en aura. Et alors après, il faudra avoir le courage de voir les choses en face. Hein?
Est-ce que le domaine, niveau social, niveau d'études, tout ça, ça joue aussi.
Ah oui, ça joue aussi.
Parce que moi, je pense à la chose suivante, admettons, on est dans un groupe aussi, et il y en a là qui sont, mettons, il y a une fille qui a fait
les hautes études,
je ne sais pas, et un garçon tout simple, par exemple.
Oui, bien sûr, c'est une bonne question.
Est-ce que justement, à ce moment-là, est-ce que c'est bon que les deux s'intéressent l'un à l'autre?
Alors là, il faut aussi faire attention. Il faut non seulement une harmonie dans le domaine spirituel, même foi, même vision, mais dans le domaine aussi social, il faut aussi une certaine harmonie. Je ne veux pas dire que ça ne peut pas se faire. Hein. On peut pas, il n'y a pas de règles fixes, bien sûr. Hein. Mais il faut s'attendre à de grandes difficultés. Il faut s'attendre à des difficultés. Vous pensez bien, par exemple, une fille qui a fait des hautes études et puis un garçon qui n'a pratiquement pas fait d'études ou autre. C'est pas qu'elle méprise lui, pas du tout. Mais elle va au-devant de grandes difficultés, parce qu'il n'y aura pas... dans le mariage, c'est pas seulement l'harmonie physique, ou même l'harmonie spirituelle, il y a aussi l'harmonie intellectuelle, donc sociale, dont vous parliez, l'harmonie psychique, donc psychologique, vous comprenez? Et il faut essayer de trouver une harmonie dans tous les domaines. Alors là, c'est ça. Parce qu'autrement, s'il n'y a pas de dialogue, finalement, hein, alors lui, ça peut être l'inverse. Le gars, lui, a un cerveau, et puis elle, une petite... Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Elle ne peut pas entretenir une conversation, lui aussi. C'est pas que l'un méprise l'autre, pas du tout, vous comprenez? Il n'est pas du tout question de ça. Lui, c'est un paysan, c'est un paysan. Il n'y a pas de déshonneur à être un paysan. Et il n'y a pas comme un déshonneur à une autre personne d'être une servante, ou je ne sais pas, n'importe. Il n'y a pas de déshonneur. Mais pour l'harmonie dans le couple, il faut veiller à cela. Et s'il y a trop de différences, il risque d'y avoir beaucoup de difficultés. C'est pourquoi il faut une certaine harmonie dans ce domaine-là. Au niveau intellectuel, tout ça, qu'on puisse aussi avoir à peu près le même niveau.
Je pense aussi toujours concrètement, je vois que dans tous les groupes de jeunes, dans toutes les assemblées, quelles qu'elles soient, les masses de filles, il n'y a pratiquement pas de garçons.
Ah oui, ça c'est un autre problème. Aussi.
Mais à ce moment-là, comment est-ce que le Seigneur lui fait?
Non, mais là, vous n'êtes pas... Mais vous n'êtes pas... Oui, mais l'Alsace, enfin on est en Alsace, ici c'est l'Alsace. L'Alsace-Lorraine, c'est pas toute la France, il y a autre chose. Vous pouvez aller dans des camps de jeunes, vous pouvez vous engager justement dans certaines choses. Des rallyes de jeunesse, des camps de jeunes, des colonies. Ah bah bien sûr, mais c'est tout à fait normal. Ou des retraites et tout. Ah, naturellement, si vous restez fixé là, ça je comprends que ça peut être difficile. Mais c'est pourquoi il faut aussi que dans les églises, et je crois qu'il y a des activités comme ça, un peu où vous pouvez sortir, c'est tout à fait normal. Hein? Ah oui, non, mais ça, il faut aussi sortir, c'est normal. C'est normal. C'est sûr.
Pour revenir au premier point, j'aurais une autre question. Vous aviez dit que le Seigneur, c'est sûr, a préparé quelqu'un. Et pour le cas des veuves ou des veufs, est-ce qu'il se peut qu'il y ait une deuxième personne?
Ah oui, bien sûr, absolument. Le Seigneur a quelque chose pour eux aussi. Pardon?
C'est sûr.
Hein?
Non, c'est sûr, vous l'avez dit, il y en a une.
Ah oui, mais dans le cadre du mariage. Mais la Bible aussi parle de personnes veuves, de veuves, qui peuvent se remarier. À ce moment-là, vous comprenez là,
à ce
vous
êtes... moment-là, il y en a plusieurs.
Non, mais il y en a plus.
En théorie, il y en a plusieurs.
Oui, d'accord, en théorie, oui. Non, mais on parle maintenant du plan de Dieu dans le mariage. Voilà. Alors, quand on voit le problème sous l'angle du mariage, Dieu a prévu qu'un seul conjoint. Alors, bien sûr, s'il y a décès de l'un ou de l'autre, eh bien, le Seigneur prépare quelqu'un d'autre. Mais son plan original, son plan initial, c'est une personne.
J'aurais une question. pas que vous ne pourrez jamais changer quelqu'un.
Oui.
Donc, vous pensez que même en donnant l'exemple d'une vie chrétienne, on ne pourrait pas éveiller le conjoint
C'est hippie, oui. Non, vous-même, vous ne pourrez pas. Il n'y a que le Seigneur qui peut le faire.
Justement, mais...
Ouais. Ah oui, non, mais... Oui, mais...
Même, écoute, et en priant beaucoup pour...
Oui, ah ben voilà. Oui, en priant. Donc ça, c'est autre chose, là, maintenant. Là, le point important est celui-ci, c'est que, bien souvent, on pense que par notre attitude, ou par quelque chose que nous faisons nous-mêmes, que nous pouvons le changer. Alors là, c'est là qu'il faut bien réaliser une chose, c'est que vous-même, par vous-même, vous ne pourrez pas le changer. Vous ne pouvez, comme moi, je ne peux pas changer quelqu'un, vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Ce n'est pas possible. Alors maintenant, Dieu peut utiliser plusieurs moyens. Votre bon exemple, votre prière, pour toucher votre mari. Toucher. Alors là, d'accord. Et Dieu utilise ce canal ou différents canaux pour toucher l'autre. Mais vous-même, vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Et ça, il faut bien que tous en soient convaincus. Parce que autrement, qu'est-ce qu'on va faire? On se dit, bon, ben, je peux quand même faire ceci, ou je peux quand même me marier avec lui, pensant que secrètement, dans le fond de notre cœur, on pourra le changer. Alors là, c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire. Si vous pensez que secrètement, dans votre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'après le mariage, vous pourrez quand même, les autres n'ont pas réussi, mais vous réussirez. Alors là, il y a une séduction à la base, et ça vous coûtera très cher.
Oui? Vous pouvez m'expliquer le cas de Jacob, qui avait deux femmes, Rachel et Léa.
Ah, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Alors, on n'est plus sous l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit qu'au début, il n'en était pas ainsi. Le plan de Dieu est... l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc il y a certaines choses dans l'Ancien Testament qui ne sont pas dans le plan original de Dieu. Dieu a toléré certaines choses pendant un certain temps, mais cela ne veut pas dire qu'il l'approuvait 100%. Mais le plan de Dieu, le plan original de Dieu, est justement une seule chair. Oui. Non mais, oui bien sûr. Mais je veux dire, cela ne veut pas dire que Dieu approuvait les voies de ces personnes-là. Il y avait un plan original, mais à cause de l'endurcissement du cœur de l'homme, alors Dieu a permis certaines choses, mais cela ne voulait pas dire qu'il approuvait parfaitement ces choses. Et d'ailleurs, le fait d'avoir deux femmes augmente les problèmes. Et combien de difficultés ont-ils eu alors les autres qui en avaient autant. C'est pas parce qu'il en a eu deux qu'il était plus heureux. On pense. Et surtout elle, et celle qui souffre le plus, justement, c'est une très bonne chose, celle qui souffre le plus dans ces cas-là, c'est les femmes. Les femmes, il n'y a qu'à voir en Afrique, hein, dans le sens, c'est la grosse bagarre là-bas. Celui qui a une dizaine de femmes, lui, il fait le pacha, il s'amuse comme un petit prince. Mais attention, avec les autres femmes, c'est les matchs de boxe, je vous assure, c'est pas là. Alors si vraiment lui aimait ses femmes, il ne pourrait pas tolérer qu'il y ait une telle attitude entre toutes ses concubines. Donc finalement, ce n'est pas de l'amour qu'il a. Il est là, il est possédé par la sexualité, et puis après c'est tout, par l'égoïsme. Il ne pense qu'à lui-même. Mais il ne se rend pas compte qu'il rend des femmes malheureuses. Ça, c'est en dehors de sa pensée. Pourvu que lui en jouisse bien. Alors ça, ce n'est pas l'amour. Et ça, ce n'est pas l'amour selon la pensée de Dieu. C'est la sexualité, mais pas de l'amour.
Ah
non, mais alors là, pour ces questions personnelles, il faut voir les cas de plus près. Et là, on ne peut pas répondre. C'est très délicat quand il y a des problèmes comme ça dans les familles. Je ne peux pas donner une réponse comme ça. Parce qu'il y a le contexte, il faut voir les choses de plus près. Moi, je n'aime pas donner, et on n'aime pas donner des réponses toutes faites comme ça, à un franc, des petites réponses comme ça. Non, c'est trop sérieux pour dire des choses à la légère comme ça. Chaque cas est différent, il faut les voir vraiment de près, et puis en étudiant bien le dossier, c'est très important. C'est pour ça que je ne me permettrai pas de dire des choses sans connaître tout le dossier, tout le contexte. Sinon, on dit des bêtises.
souvent on se fait une image très précise de son, oui, de son conjoint. Merci, et, mais le Seigneur, c'est pas évident que le Seigneur nous destine une personne qui rentre dans notre image.
Oui.
Mais est-ce qu'on ne risque pas de, je sais pas, de pas de rater la personne ou d'être un peu choqué ou refroidi, disons en voyant une personne qui ne correspond pas à notre idée.
Oui, alors là, bien sûr, c'est normal qu'on se fasse une idée. Alors, il y a les sentiments qui sont là, c'est normal qu'on se fasse une idée. Et celui ou celle que Dieu nous donne est quand même quelqu'un qui nous plaît. Il ne sera pas parfait. Mais il y aura certaines confirmations dans le fond de notre cœur que c'est quand même lui, même si ça ne correspond pas dans tous les domaines comme on l'avait pensé. Parce qu'il ne faut aussi pas, naturellement, trop idéaliser la chose, parce qu'alors là, si on recherche trop la perfection dans ce domaine-là, parce que vous n'êtes pas parfaite, il ne faut pas attendre un conjoint parfait aussi. Vous comprenez ? Mais, ça, entre la perfection et quand même se faire une idée de quelqu'un qui correspond à nos besoins, ça c'est autre chose. Et là, le Seigneur, je crois que il vous aidera dans ce domaine-là, il vous donnera quelqu'un, en tout cas, qui vous plaise.
Voilà, nous voulons remercier notre frère pour tout ce que nous avons reçu.